Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la Catalogne et essayer d'y voir un peu plus clair dans cette affaire très dense et entourée d'un grand flou. Alors justement pour nous aider à voir un petit peu plus clair, on sera tout à l'heure avec Jérôme Vialaret, qui est président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron, également avocat au barreau d'Albi et qui a développé des relations de cœur très proches avec la Catalogne. Son point de vue législatif nous sera très utile pour y voir un peu plus clair. Donc, et pour commencer, un petit historique pour replacer les événements dans leur contexte. Alors, on a beaucoup parlé du référendum du 1er octobre, mais il faut savoir qu'il n'est pas arrivé d'un seul coup, puisque en octobre 2016, le Parlement catalan a voté l'organisation du référendum pour son indépendance. Un an plus tard, le 1er octobre 2017, donc la Catalogne vote en faveur de son indépendance, avec un taux de participation de 42,3%, et le oui l'emporte donc avec 90% des voix. Mais ce qui marque les esprits, c'est surtout le déploiement policier de Madrid et les violences des forces de l'ordre à l'encontre des citoyens catalans qui étaient très pacifistes ce jour-là. Ensuite, le 27 octobre, le Parlement catalan engage un processus constituant pour se séparer de l'Espagne et fonder une république catalane. Presque au même moment, à quelques heures d'intervalle, le Sénat espagnol vote en faveur de l'article 155 de la Constitution, un article qui n'avait jamais été utilisé jusqu'à ce jour et qui permet de mettre sous tutelle la Catalogne, une première donc en Espagne. Le gouvernement espagnol destitue ainsi le Parlement régional catalan et le gouvernement de Barcelone. Madrid assure désormais directement l'administration de la région et a convoqué des élections régionales pour le 21 décembre. Le 30 octobre, Carles Puigdemont et cinq ministres destitués quittent l'Espagne pour la Belgique et il assure qu'il reconnaîtra le résultat des élections du 21 décembre en appelant Madrid et les chancelleries internationales à en faire de même. Le 3 novembre, le gouvernement espagnol arrête 8 anciens ministres catalans et lance un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et ses conseillers en Belgique. 2 jours plus tard, Puigdemont et ses conseillers se rendent à la justice belge, puis sont libérés quelques heures plus tard avec condition de ne pas quitter le territoire belge et de répondre à toutes les convocations de la police ou de la justice. Mercredi 8 novembre, la Cour constitutionnelle espagnole annule la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Elle avait été suspendue le 31 octobre par la même cour après un recours du gouvernement espagnol. La Cour a donc décidé que cette indépendance était, je cite, « nulle et inconstitutionnelle ». Voilà pour une rapide mise en contexte de la situation actuelle. Nous sommes donc avec Jérôme Vialaret, qui est président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron. Vous êtes aussi avocat au barreau d'Albi et vous me disiez que vous avez une relation quand même particulière avec la Catalogne. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi ?
Oui, c'est une relation très amoureuse en fait. Depuis mon enfance, j'ai été habitué, grâce à mes parents, avec mes frères, à aller passer toujours chaque année une partie de nos vacances en Catalogne. Donc j'ai découvert très tôt, après la mort de Franco, cette langue qui avait été tenue secrète, mystérieuse, interdite pendant très longtemps, ressurgir. J'ai beaucoup d'amis là-bas, puis ensuite effectivement j'ai fait une partie de mes études dans le cadre du programme Erasmus à la faculté de droit de Barcelone. Et voilà, c'est une région que je connais bien et puis je me suis investi aussi. C'est une langue que je manie moins aisément que l'espagnol, mais je peux m'exprimer en catalan aussi.
D'accord. Et vous me disiez aussi que vous y avez été depuis l'organisation de ce référendum pour voir comment ça se passait là-bas. Donc
voilà, pour sentir un petit peu les choses, oui.
Ouais, d'accord. Donc votre avis est plutôt bien fondé. On va essayer de faire sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre.
Voilà.
Pour traiter de ce sujet assez compliqué comme on l'a vu. Donc là, on vient de faire un petit historique un petit peu de la situation et donc, l'État espagnol vient de invalider la déclaration d'indépendance. Alors, sur quoi se base l'État espagnol, en fait, pour invalider cette déclaration ?
Alors, il se fonde essentiellement sur une chose. Il dit que ce processus d'indépendance, donc de sécession, comme il dit, ne serait pas constitutionnel. Ce qui semble pertinent a priori, puisque c'est repris par les médias, beaucoup de stations de radio, j'en ai une en particulier, qui ne cesse de nous répéter qu'il est normal d'invalider un processus qui ne serait pas considéré comme conforme à la Constitution, sauf que je ne sache pas qu'il y ait eu dans l'histoire beaucoup de constitutions qui permettent la sécession d'une partie du territoire. Donc c'est un argument qui peut être juridiquement considéré comme valable, sauf qu'il est politiquement complètement infondé. La plupart des peuples ou des nations prennent leur indépendance en dépit du bon vouloir du colonisateur ou du bon vouloir de l'État central. Lorsque la Grèce, en 1830, se libère de l'Empire ottoman, je ne pense pas qu'il ait eu, dans ce qui devait tenir lieu peut-être à l'époque de constitution ottomane, d'articles ou de clauses qui permettent cette sécession. De fait, ça se passe toujours mal et c'est toujours en rapport de force. C'est un petit peu comme la lutte des classes dans la pensée marxiste, il y a des choses qui se prennent, qui se conquièrent. Alors, certaines par la violence, et là en l'occurrence par un processus qui a voulu être démocratique et être marqué du sceau de la démocratie dès le départ. Il y a quand même une chose qui est singulière avec la revendication catalane, c'est que contrairement à certaines autres revendications tout aussi légitimes, comme la revendication basque ou irlandaise à l'époque de l'IRA ou corse à certaines époques, la revendication catalane n'est pas une revendication violente.
Oui, c'est ça justement, qu'ils ont voulu faire ça dans les règles de l'art, un petit peu de faire ça sans justement violence, et c'est pas comme on pourrait le penser si on n'a pas trop suivi l'histoire, ça surgit pas de nulle part, quoi. C'est quand même quelque chose, comme vous le disiez, les démarches sont en cours depuis longtemps.
Les démarches même actuelles sont en cours depuis longtemps, sans parler de la démarche ou du sentiment national catalan qui est très très ancien. La première déclaration d'indépendance de la Catalogne, c'est 1641, à l'époque de ce qu'on appelait la guerre des faucheurs. Dont d'ailleurs est issu l'hymne actuel catalan qui s'appelle El Segador, qui veut dire le faucheur. Donc ensuite on en a eu une nouvelle en 1873, en 1931, en 1934, donc aujourd'hui celle qui a été proclamée le 27 octobre 2017, donc il y a quelques jours, c'est la cinquième, sans compter des tentatives diverses et variées. Donc c'est une opposition pas toujours frontale, mais toujours latente en tout cas, entre le pouvoir central et Barcelone et la région de la Catalogne.
Et comment se sont soldées les anciennes déclarations d'indépendance ? Ça a été toujours très vite récupéré par l'État espagnol, la gouvernance de la Catalogne ?
Oui, puisque effectivement c'est une région qui, dès cette époque-là, dès la première époque, donc 1640, est considérée comme une province riche qu'il ne faut pas laisser échapper du fait même. Et ce sont souvent d'ailleurs pour des raisons fiscales et commerciales, économiques, que les déclarations d'indépendance vont se faire. La première en 1641, c'est justement lorsque le pouvoir central essaie de mettre à contribution la Catalogne, qui jusqu'alors ne contribuait pas au financement de l'armée espagnole. On lui oblige, le Comte d'Olivares, qui est l'équivalent du premier ministre espagnol de l'époque, veut obliger la Catalogne à mettre la main à la poche pour financer les armées espagnoles. Et la réponse de la Catalogne, c'est une déclaration d'indépendance sous forme de république, tout de suite. Mais bien entendu, c'est une petite région, même si elle est puissante. Elle n'est pas puissante à l'époque comme elle l'est devenue relativement aujourd'hui. Et donc, ils vont faire une chose assez singulière, c'est dès l'année suivante, en 1642, ils vont faire appel aux grands frères du Nord et ils vont instituer le roi de France, Louis XIII, comte de Barcelone.
D'accord.
Ce qui va avoir des répercussions effectivement importantes, puisque le conflit va être internationalisé, le problème de la république catalane va être internationalisé tout de suite entre les deux grands frères rivaux de l'époque qui sont le royaume d'Espagne et le royaume de France. D'ailleurs, entre l'eau soit dit, en 1659, quelques années plus tard, la Catalogne va y perdre le Roussillon et la Cerdagne qui ont constitué ce qui s'appelle aujourd'hui les Pyrénées orientales. Donc la première tentative de sécession de la Catalogne du royaume d'Espagne s'est soldée par une amputation des provinces catalanes du Nord. Les autres tentatives ne seront pas plus fécondes. En 1673, ce sera également récupéré très vite. Et puis, il y a surtout celle tout à fait dramatique de 1934, où, avec Luis Companys, qui est le président de la Generalitat, la déclaration d'indépendance va se faire en avril 1934 et va être une des raisons du déclenchement de la guerre civile en 1936, qui se terminera, vous le savez, par la victoire des forces nationalistes, franquistes, en 1939, et une répression sur la Catalogne tout à fait considérable. Barcelone a été, de 36 à 39 d'ailleurs, une des villes phares de ce conflit civil, cette guerre civile espagnole. Luis Companys, d'ailleurs, qui subira un sort tout à fait tragique, puisqu'il se réfugie en France, et il va être capturé. Il se réfugie, si ma mémoire est bonne, en Loire-Atlantique, et il va être capturé par la Gestapo en pleine guerre. La Gestapo va remettre Luis Companys à la police franquiste et il sera fusillé dans la citadelle de Montjuïc en 1941 sur les hauteurs de Barcelone. Donc on voit qu'effectivement les forces réactionnaires d'Europe se sont donné la main pour non seulement étouffer, puisque c'était fait, mais punir les revendications catalanes. D'ailleurs, on en a un petit peu les échos aujourd'hui avec la procédure qui a été lancée de mandat d'arrêt européen auprès du Royaume de Belgique concernant les cinq ministres catalans et leur président Carles Puigdemont.
Une petite explication à présent, on va écouter un document du journal Le Monde qui nous explique de manière très concise, avec forcément quelques manquements, pourquoi la Catalogne veut-elle son indépendance.
Des manifestations monstres, des milliers de tracts interceptés par la police, des centaines d'élus locaux accusés de désobéissance. Depuis quelques années, un bras de fer acharné oppose le gouvernement espagnol à la Catalogne. Et l'affrontement s'est intensifié ces derniers mois.
No subestimen la fuerza de la democracia española.
Que és una cosa que els que, en fi, els darrers que ho recorden van viure la dictadura del general Franco.
Mais d'où vient exactement cette crise? Pour le comprendre, il faut d'abord faire un peu de géographie. La Catalogne, c'est une région située dans le nord-est de l'Espagne. Sa taille est à peu près celle de la région PACA, en France. Bon, pour être précis, selon certains indépendantistes catalans, il faudrait y ajouter des petites portions de terre situées côté français, Valence, ainsi que les îles Baléares. Aujourd'hui, la Catalogne, c'est l'une des 17 communautés autonomes qui forment l'Espagne. Elle compte 7,5 millions d'habitants, a sa propre langue, le catalan, sa propre force de police et son propre gouvernement installé à Barcelone. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les tensions sont-elles si fortes avec le reste de l'Espagne ? Eh bien d'abord parce que la Catalogne représente 20% du PIB de l'Espagne. Et comme c'est une région dynamique, elle a parfois l'impression d'être volée par le reste du pays car elle n'a pas la maîtrise de ses impôts. Un sentiment d'injustice qui s'est particulièrement développé après la crise économique.
No podemos estar más con ellos ya. Porque para qué? Para perder más todavía.
Mais surtout, il y a un feuilleton judiciaire. En fait, au début des années 2000, le gouvernement régional catalan demande à Madrid de lui transférer une partie de son pouvoir. Au départ, ça se passe plutôt bien. Le gouvernement espagnol, socialiste à l'époque, accepte de renforcer l'autonomie de la Catalogne. Ce nouveau statut est approuvé par un référendum qui n'attire alors pas vraiment les foules. Mais la droite espagnole n'est pas d'accord. Le Parti populaire, conservateur, va en effet tout faire pour empêcher la Catalogne de s'émanciper davantage du reste du pays.
Hacer posible impedir desde ahora que los daños se conviertan en irreparables.
Et c'est en 2010, 4 ans plus tard, que tout bascule. Cette année-là, le tribunal constitutionnel espagnol, dont le rôle est de protéger la Constitution, donne raison au Parti populaire. Par exemple, il refuse que la Catalogne se considère comme une nation, puisque, à ses yeux, la seule nation qui existe, c'est la nation espagnole. De même, il refuse que l'on donne aux Catalans, la langue, une place plus importante qu'à l'espagnol.
Catalunya es un pueblo vivo, es una nación que se lo cree, que es una nación que está dispuesta a defender su presente y su futuro.
Cette décision est vécue comme une trahison par les Catalans. C'est elle qui les pousse à se mobiliser. Et depuis, les positions se raidissent. Par exemple, en 2014, la Catalogne organise son propre référendum d'indépendance. Mais le pouvoir central, désormais aux mains des conservateurs du Parti populaire, saisit la justice pour le rendre illégal et fait même condamner ceux qui l'ont organisé. Les Catalans, eux, s'éloignent petit à petit du reste de l'Espagne. S'ils n'étaient que 15% en faveur de l'indépendance en 2010, ils sont aujourd'hui environ 40%. Et la Diada, la fête annuelle catalane, s'est progressivement transformée en une démonstration de force des indépendantistes. En septembre 2017, ils étaient près d'un million dans les rues de Barcelone.
De retour sur Radio Albicès, on continue l'entretien à propos de la Catalogne avec Jérôme Vialaré, président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron et avocat au barreau d'Albi.
Donc du coup, actuellement, concrètement, comment ça se passe la gouvernance de la Catalogne? Elle est mise sous tutelle du gouvernement, c'est ça?
Voilà, complètement
et
sous tutelle.
Comment ça se passe? Alors elle est plus autonome en fait?
Non, il n'y a plus d'autonomie, sachant que l'autonomie est quand même, constitutionnellement, ne peut pas être suspendue trop longtemps, il peut être, la suspension peut être renouvelée, mais il y a quand même des garde-fous, puisque la constitution de 1978 dit que l'Espagne est un royaume constitué de provinces. Le fait qu'il y ait des provinces autonomes en Espagne est un des éléments constitutionnels, au sens propre, mais au sens second d'ailleurs, du terme. Donc il y aura de nouveau une communauté autonome de Catalogne. Reste à savoir dans quel cadre, comment. Aujourd'hui, en tous les cas, elle n'existe plus. La liberté d'administration est suspendue. par la mise en œuvre de l'article 155, à laquelle d'ailleurs a répondu le tribunal constitutionnel en annulant la déclaration d'indépendance du 27 octobre, chose à laquelle on pouvait bien entendu s'attendre. Donc aujourd'hui, en réalité, ce sont les différents ministres, notamment le ministère de l'Intérieur, de l'État central, qui prennent la main sur l'administration catalane, qui reste quand même composée des fonctionnaires qui existaient avant, qui était en poste avant le 27 octobre, sauf ceux qui ont du mal à considérer la situation comme une situation normale. Donc il y a des menaces de licenciement, il y a une reprise également en main de TV3, qui est la télévision catalane, à laquelle on reproche d'être un nid de séparatistes. On a vu aussi le rôle qu'ont pu jouer Els Mossos d'Esquadra, qui sont la police catalane, qui constituent la police catalane et qui a fait l'objet d'une reprise en main particulièrement oui. souple tout de même de la part de l'État central, parce que l'État central sait très bien qu'il ne peut pas dépêcher 20 000 guardias civils sur le territoire catalan. Donc je pense que l'État central a fait preuve de souplesse, puisque le commandant d'Els Mossos d'Esquadra a été limogé, mais n'a pas été remplacé par une personne venue du pouvoir central, mais par son second, qui est catalan. Et voilà. Donc là,
ils n'ont pas envie de trop envenimer les choses non plus.
Peut-être pas. Ils ont surtout besoin d'une force de police locale qui puisse se faire accepter aussi de la population et ne pas peut-être user de la même brutalité qu'autrefois. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus d'autonomie et toutes les administrations sont entre les mains des administrations centrales.
Et donc, en ce qui concerne Carles Puigdemont et donc ses conseillers qui sont avec lui en Belgique, là, ils sont, vous dites, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Alors, oui. De quoi on les accuse, en fait? Et est-ce que ces accusations sont seulement dans le but de les discréditer, ou est-ce qu'il y a un fond juridique vraiment légal pour ces accusations? Est-ce qu'ils risquent quelque chose concrètement? Est-ce qu'il risque la prison?
Ah oui, il risque très nettement la prison, puisque ces accusations de sédition et rébellion ont déjà d'ailleurs fait l'objet d'une mise en œuvre concernant Artur Mas. Artur Mas, c'est le prédécesseur de Carles Puigdemont au poste de président de la Generalitat, qui lui-même, le 9 novembre 2014, a organisé un référendum d'autodétermination, non pas d'indépendance, mais d'autodétermination. C'est une façon d'ailleurs polie, gentille et courtoise vis-à-vis du pouvoir central de dire à peu près la même chose, et qui a été déclaré anticonstitutionnel. Et Artur Mas, au début de l'année 2017, a été condamné à plusieurs années, non pas de prison tout de même, mais d'interdiction d'exercice de mandat public et une amende très importante. Voilà, il sert de calmer un petit peu les jeux. Le jeu, là, pour Carles Puigdemont, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on parle de rébellion et sédition, donc menaçant Carles Puigdemont et les ministres de 15 à 30 ans de prison. Bon, ça, je pense que c'est aussi une façon pour le pouvoir central de montrer ses muscles un peu plus et dire que on va voir ce qu'on va voir. Je pense que c'est une sanction qui est encourue, mais qui ne serait sans doute pas prononcée. Mais le simple fait qu'on puisse engager des poursuites pour rébellion et sédition à l'encontre de personnes qui ont été régulièrement élues, au simple fait qu'elles ont manifesté leur velléité d'indépendance par la mise en œuvre d'un projet annoncé clairement dès avant les élections, doit quand même nous interpeller sur notre silence à nous. Aussi, d'une part, sur l'état peut-être d'avancée démocratique pas aussi important qu'on l'avait souhaité et espéré de l'autre côté de la frontière, mais aussi au regard du silence des grandes chancelleries occidentales, notamment françaises, allemandes, britanniques, italiennes, que sais-je encore, nous interpelle un petit peu sur notre façon de regarder les choses et de considérer cette crise. Là, il y a quand même un traitement non seulement médiatique, mais politique, diplomatique, qui me semble, au niveau diplomatique, peut-être simplement frileux, mais en tout cas assez pernicieux, et qui nous permet de nous interroger sur ce que nous sommes vraiment.
Par rapport à cette déclaration d'indépendance, il parle du droit des peuples à l'autodétermination, oui. Donc un des droits fondamentaux, et ça a été très bien appliqué jusqu'à présent. On a fait ça dans les règles, il n'y a pas eu de violence ou quoi que ce soit, et pourtant ça a été réprimé et les réactions sont presque démesurées par rapport à comment ça a été mis en place.
Absolument.
Et donc du coup, vous qui êtes avocat, donc vous avez un point de vue très légal sur cette situation. Est-ce que légalement, au niveau des règles de droit international, la Catalogne est en droit d'appliquer un processus d'indépendance là.
Alors, mais le principe d'autodétermination fait toujours problème. Mais pourtant, oui. Il a été sans arrêt proclamé. On sait qu'on a parlé de printemps des peuples après les révolutions de 1848. Ça remonte à loin. Après, ce sont les 19 points du président Wilson à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a d'ailleurs conduit à l'éclatement de l'Empire austro-hongrois en autant de pays ethniquement constitués, hein, en nations, etc., etc. Mais c'est vrai que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est devenu extrêmement frileux quant à la rectification des frontières. Et ce principe fondamental, qui devrait être un des premiers principes, qui est celui de l'autodétermination des peuples, se voit aujourd'hui contrecarré par une espèce de vitrification des frontières où les États sont ce qu'ils sont à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et ne doivent pas bouger. Sinon, on va toujours nous dire que rectifier une frontière aujourd'hui, c'est ouvrir cette fameuse boîte de Pandore, dont en l'occurrence, on se demande bien si ce n'est pas le gouvernement central espagnol qui l'a ouverte, beaucoup plus que Carles Puigdemont et la Generalitat de Catalogne. Donc voilà, on est au niveau du droit en situation, effectivement, de dire et de revendiquer la libre expression d'une nation qui se revendique telle. En fait, on est une nation, lorsqu'on est un groupe humain, on est une nation dès lors qu'on se sent une nation. C'est quelque chose de très subjectif. Et c'est cette subjectivité-là qui a fait les États tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais ce qui a été fait par l'histoire peut être défait par l'histoire. Il n'y a rien d'éternel. Or, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est une espèce d'éternité des frontières, d'intangibilité des frontières, de sacralité du sol. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas prévaloir sur la volonté d'un groupe humain de dire « je ne me sens pas appartenir à ce territoire qui est finalement un territoire hasardeux, qui est issu des conjectures de l'histoire, des soubresauts militaires, diplomatiques. Eh bien moi, aujourd'hui, et depuis des siècles, je clame que je ne veux plus appartenir à ce territoire-là. Moi, aujourd'hui, je réclame le droit d'en sortir. » Voilà, donc c'est juridiquement, c'est possible, mais on a un principe qui apparaît supérieur et dont les politiques nous rebattent les oreilles à longueur de journée. Il faut que les États restent tels qu'ils sont. Contrairement à ce que disait le général de Gaulle, qui était poète à 16 heures, bon, l'éternité d'un État, c'est quelque chose qui relève d'une vue de l'esprit ou d'une vue poétique des choses, mais pas d'une vue réelle.
À présent, on va se rendre sur place et aller en Catalogne grâce à un reportage qui a été réalisé par la chaîne Arte et diffusé avant le référendum. Il nous permet quand même de se rendre compte d'une situation qui n'a pas beaucoup évolué malgré les événements d'octobre, tant la situation reste floue.
Réunis pour la Diada, la fête nationale catalane, les indépendantistes chantent leur hymne à 17h14 exactement. Ils commémorent la chute de Barcelone face aux troupes de Madrid le 11 septembre 1714. Cette année, ils sont 500 000 et chantent plus fort que jamais, convaincus que la revanche approche.
Nous allons tous nous rendre aux urnes avec beaucoup d'excitation. Et ce bonheur que nous ressentons aujourd'hui durera longtemps. Nos enfants auront plus d'espoir et la promesse d'un meilleur avenir.
Margot habite à 50 km de Barcelone. Son village est le premier à avoir organisé, en toute illégalité, un mini-référendum sur l'indépendance en 2009. Résultat, 96% de oui. Le père de Margot, résistant communiste, a été déporté pendant la guerre d'Espagne. De la dictature de Franco, qui a maté durement le nid de républicains qu'était la Catalogne, elle garde une plaie qui n'a jamais cicatrisé.
On nous obligeait à chanter le Carasol, l'hymne de Franco, tous les jours, avec la main levée, comme ça. Et tout ce qui venait de la culture catalane était interdit. On a vécu 40 ans de répression. Et si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Franco, c'était l'horreur. L'horreur, la mort.
Ce traumatisme a engendré chez Margot une défiance persistante envers la couronne espagnole et son gouvernement. Un indépendantisme farouche qu'elle espère voir triompher avec le référendum.
C'est mon dernier combat. Ça doit être mon dernier combat. Parce que j'ai 71 ans. J'ai fait mon temps. Et parce que si ça ne fonctionne pas, réessayer sera vraiment très difficile. Mon rêve, c'est ça, l'indépendance. Reconstruire un pays meilleur, le pays dont rêvait mon père. Ce n'est pas moi qui l'ai souhaité en premier, c'est mon père et mon grand-père. On a toujours rêvé de ça dans ma famille. Et je me dis, mon Dieu, j'aimerais qu'il voie ça. J'aimerais que mon père voie ça. Quel bonheur ce serait. Donc oui, je pense que c'est ma dernière chance.
Mais l'indépendantisme catalan n'est pas seulement motivé par le passé. Dans cet autre village, ses supporters du Barça, le club de Barcelone, sont trop jeunes pour avoir connu le franquisme. Pourtant, ils n'iront pas au match de ce soir sans porter fièrement les emblèmes du séparatisme.
Voilà l'Estelada, le drapeau indépendantiste, et le drapeau du oui, le oui au référendum.
Ces derniers temps, il y a un peu plus de pancartes, beaucoup plus d'Esteladas. Et chaque jour, il y en a encore un peu plus. Pour la Catalogne, le Barça, c'est comme une armée. C'est notre armée, une armée sportive, pacifique, mais c'est vrai que c'est un peu comme notre carte de visite aux yeux du monde.
Ce soir, le Barça affronte la Juventus de Turin. Et Bernat et Jordi ne seront pas les seuls à brandir leur Estelada devant les caméras, même si le règlement de l'UEFA l'interdit formellement.
Dans le reste de l'Espagne, quand tu amènes des drapeaux indépendantistes au stade, ils les confisquent. La sécurité du stade les prend. Ils ne laissent pas les gens comme nous s'exprimer librement.
Au Camp Nou, le stade de Barcelone, les supporters indépendantistes jouissent d'une tolérance complice. Et 17 minutes 14 secondes après le coup d'envoi, toujours pour rappeler 1714 et la défaite pour laquelle ils espèrent leur revanche, ils scandent. Indépendance. Dans toute la Catalogne, l'association indépendantiste ANC organise la campagne pour le référendum. À Torrejó, à 100 km au nord de Barcelone, Belén est venue coordonner la participation du village à la Diada. Mais contre toute attente, c'est de Madrid qu'elle arrive. Belén n'est pas catalane, pourtant elle a épousé la cause indépendantiste. On ne vous prend pas pour une espionne envoyée par Madrid ?
Il y a des gens qui m'ont dit ça, oui, mais c'était pour rire. Non, je n'ai rien d'une espionne. Il y a des Espagnols qui pensent que je n'ai rien à voir avec ça, que ce n'est pas mon combat. Mais si, ça l'est. C'est une lutte pour la démocratie. Et ça, ça concerne tout le monde.
Comme les autres indépendantistes, Belén estime que le gouvernement de Mariano Rajoy, en ordonnant à la police espagnole d'empêcher le référendum par tous les moyens, prive les Catalans de leur droit à disposer d'eux-mêmes.
La dame dit ici, Rajoy, toi et ta petite bande, ceux qui t'entourent, allez tous vous faire enculer.
Moi, je suis comme ça, direct et catalane.
La répression, le refus de discuter, l'intolérance, ce n'est pas la meilleure stratégie. Là-dessus, M. Rajoy a mis tout le monde d'accord. Les anti-indépendantistes et les indépendantistes, ceux qui sont pour la tenue du référendum et ceux qui sont contre. Parce que ce n'est pas une façon de résoudre une question politique.
Cette campagne de l'ANC est en partie subventionnée par de généreux entrepreneurs. Ils reprochent à Madrid de mal gérer l'argent que lui rapporte la Catalogne, économiquement très dynamique. Mais tous les patrons ne sont pas sécessionnistes. Josep Bou dirige à Barcelone une boulangerie industrielle. Et il craint qu'en cas d'indépendance, la Catalogne sorte de facto de l'Union européenne.
Moi, je me délocaliserai le jour même. Je quitterai la Catalogne. Avant tout parce que je veux être sur un marché européen. C'est un grand marché. Je ne veux pas me retrouver dans une Catalogne isolée, seule et abandonnée. Ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que mon but, c'est de maintenir le patrimoine de mon entreprise, pour ma famille. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et si la Catalogne n'est plus dans le marché commun, on paiera des taxes douanières. Donc on sera obligé d'augmenter les prix. Et donc les produits catalans seront de fait moins compétitifs. Tout cela affecterait beaucoup l'économie catalane. Je peux vous dire, en tant que président d'une association de 482 entrepreneurs catalans, que la majorité d'entre eux s'en iraient, la grande majorité. Ils me l'ont dit. Ça n'arrivera pas, mais si jamais ça arrive, on ira forcément chercher un marché plus large, c'est-à-dire un marché européen. Donc on ira à Madrid.
Josep Bou est l'un des rares à afficher son opposition à l'indépendance. Dans ce bar rempli d'indépendantistes le jour de la Diada, des membres de l'association Nous sommes tous la Catalogne sont réunis à l'étage inférieur. Ils se font discrets, mais n'en sont pas moins remontés contre les sécessionnistes qu'ils accusent d'être de faux démocrates.
Ils pensent que si tu ne célèbres pas la Diada avec cette volonté d'indépendance, c'est que tu es franquiste, fasciste ou autre.
Honnêtement, j'ai peur. Je n'ose pas accrocher un drapeau espagnol à mon balcon parce que j'ai peur qu'on me lance des pierres, qu'on me traite de fasciste, parce que le climat s'est beaucoup radicalisé. Et aujourd'hui, si on n'est pas indépendantiste, on est fasciste. Il n'y a pas de juste milieu, c'est du manichéisme total.
On ne peut pas être des Catalans démocrates avec un attachement à l'Espagne. Pour eux, c'est pas possible.
Le triangle étoilé qu'ont rajouté les indépendantistes à la bannière rouge et jaune de la Catalogne s'inspire des drapeaux de Cuba et Porto Rico, deux colonies perdues par l'Espagne il y a plus d'un siècle. L'Estelada sera-t-elle un jour l'étendard officiel d'un État catalan ? Les Catalans vivent ces jours-ci un moment politique intense, mais aussi des plus incertains.
On retourne à présent avec Jérôme Vialaret, président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron et avocat au barreau d'Albi qui a suivi de près l'indépendance de la Catalogne et qui nous donne son point de vue légiste pour y permettre d'y voir un peu plus clair.
Vous parliez de cette subjectivité, c'est aussi là où il y a un peu un problème, où ça coince en fait. Il n'y a pas un consensus vraiment, il n'y a pas tout le monde en Catalogne qui est pour l'indépendance. Il y en a aussi qui sont contre et
absolument.
Tout à l'heure vous me disiez que vous connaissiez des gens qui étaient amis et,
oui.
Et qui au sein des relations sociales, ça crée vraiment une difficulté. Par rapport à ça, le côté humain, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Oui. Et j'imagine qu'on parle vraiment quasiment que de ça en Catalogne. Et ça, enfin, socialement, c'est difficile du coup là actuellement.
Oui, oui, oui. Mais ce qu'on sent en Catalogne lorsqu'on y va, c'est d'abord une inquiétude. Hein. On ne sait pas du tout jusqu'où les choses vont aller. Donc on en parle, mais bizarrement pas plus que ça. Je pense que c'est comme la ligne bleue des Vosges, hein, c'est ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais. En fait, on sent effectivement quelque chose d'inquiet qui pèse sur la population. Bon, moi, je n'ai pas vu Barcelone. Hein, j'ai vu des villes plus petites comme Figueras, bon, dans le nord de l'Espagne, où on sent ça. Mais effectivement, il y a une scission profonde que la radicalité, je pense, de la réaction espagnole a contribué à introduire parfois au sein de même famille ou des amis qui étaient autrefois des amis intimes, des amis chers et qui ne se parlent plus. Mais effectivement, oui, en tous les cas, moi je ne voudrais pas donner l'impression de prendre parti pour les uns pour les autres. Je ne suis pas catalan, je ne suis pas espagnol, je ne suis citoyen français et très heureux, très fier de l'être. Donc il ne s'agit pas pour moi de dire que l'indépendance est une bonne chose ou pas. C'est simplement de prendre parti sur les suites et concrètement comment les choses se sont passées. En tant que citoyen français, en tant que citoyen européen, en tant que appartenant à ces personnes qui font en sorte que le droit essaie de prospérer, voilà, devant les tribunaux, devant les prétoires chaque jour, je ne peux pas être indifférent au fait que le 1er octobre, même s'il s'agissait d'un référendum dit illégal ou anticonstitutionnel, on ait vu des policiers, des gendarmes mobiles, ce qu'on appelle là-bas la Guardia Civil, matraquer des gens, tirer des personnes âgées par les cheveux, les expulser, les frapper, comme cette pantalonnade presque ridicule à laquelle on a assisté pendant la deuxième moitié du mois de septembre, où la Guardia Civil ne cessait de se vanter d'avoir presque capturé des urnes qui ne cessaient de s'enfuir, et dont on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'elles étaient pour l'essentiel camouflées de l'autre côté de la frontière, à Bourmadam et à Elne et à Perpignan. Donc effectivement, finalement, ils auraient pu les chercher longtemps. On a eu une espèce de jeu du chat et de la souris qui était assez pathétique jusqu'au 1er octobre. 1er octobre, ça n'était plus pathétique du tout. Ça devenait effectivement quelque chose d'incroyablement choquant et que, encore une fois, il y a eu si peu de réactions et quelque chose qui, moi, me peine en tant que citoyen français aussi.
Est-ce que pour vous, ce déploiement de force violent par rapport à l'organisation de ce référendum, est-ce que c'est la preuve qu'en fait, le gouvernement a eu peur, en fait, a peur de ça? Et peut-être qu'au-delà de juste l'Espagne, c'est quand même un message assez international, puisque toutes les chaînes internationales en ont parlé, ça ferait peur au gouvernement en place, le fait que, oui, une région comme ça puisse organiser un référendum dans les règles de l'art, pacifiquement, et puis choisir l'autodétermination. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu peur de ça, en fait?
Alors, c'est un témoignage de peur et un témoignage de perte de sang-froid absolument incroyable. Et d'ailleurs, inconséquent au niveau juridique. Justement, vous rappeliez que je suis avocat, mais je pense que tout citoyen peut se faire la même remarque sans formation juridique. On a cessé de nous dire, à partir du vote du 6 septembre 2017, par lequel le Parlement fixait la date du référendum, Mariano Rajoy le gouvernement espagnol n'a cessé de dire que ce référendum était anticonstitutionnel. S'il est anticonstitutionnel, qu'il le laisse se dérouler. Le gouvernement central peut simplement dire, écoutez, votez si ça vous fait envie, allez-y. De toute façon, les résultats, quels qu'ils soient, ne me sont pas opposables, puisque je considère que ce référendum est contraire à la Constitution. Bizarrement, c'est quand même le paradoxe, un coup de matraque donné le 1er octobre légitime le référendum.
Oui, et justement, en déployant ses forces, peut-être que le gouvernement espérait en fait qu'il y ait un retour, que les gens qui s'étaient déplacés pour voter se rebellent contre ça, et en fait ensuite pouvoir vendre des images de manifestants, de votants qui se seraient un petit peu rebellés contre les forces de l'ordre, et du coup inverser ça, et puis dire, regardez, les méchants, enfin pour simplifier ça, c'était eux, ils ont voulu faire ça dans la violence, ce qui au final ils n'ont pas eu.
Alors je ne sais pas si le calcul du gouvernement de Mariano Rajoy est allé jusque-là, mais oui, c'est possible. En tous les cas, c'est créer peut-être une espèce d'ambiance de rébellion anti-policière. Bon, manque de chance, ça n'a pas marché. Le peuple catalan, quand même, et depuis le 1er octobre, encore aujourd'hui, fait preuve de beaucoup de maturité. Parce qu'on a vu, effectivement, même côté anti-indépendantiste, il y a eu une manifestation monstre il y a quelques jours sur les Ramblas ou sur la Bingota Catalunya à Barcelone, où il y avait des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup de Catalans qui étaient opposés à l'indépendantisme. Et effectivement, ce sont des choses qu'il faut recevoir, bien évidemment. Je pense que les dirigeants indépendantistes sont tout à fait conscients de cette situation. Il reste que ça n'a pas donné lieu à échauffourée. Dès le lendemain, il y avait une réunion des indépendantistes devant la El Palau de la Generalitat pour lutter justement et pour hurler contre la comparution de 6 ministres du gouvernement destitués devant les juges madrilènes, et il n'y a pas eu d'échauffourée non plus. C'est-à-dire que il y a, comme je disais tout à l'heure, une scission très forte entre les anti et les pros, mais ils n'en viennent pas aux mains. Donc aujourd'hui, je trouve que, quel que soit son camp, les Catalans ou les Espagnols de Catalogne, qui sont très nombreux, bien entendu, font preuve d'une maturité dont ne fait pas preuve le gouvernement. Ce qui me surprend, c'est pour ça que je dis que la boîte de Pandore aujourd'hui me semble avoir été ouverte davantage par le gouvernement central que par les indépendantistes. Ce qui me surprend, c'est que la réaction du pouvoir central est complètement disproportionnée et totalement, pour moi, illégitime, puisque du fait qu'ils réagissent de cette façon-là, ils donnent une légitimité ou ils donnent de la profondeur ou du poids à un processus dont ils prétendaient qu'il n'existait pas. Rappelez-vous la déclaration de Mariano Rajoy à l'extrême fin de la journée, vers 21h de ce 1er octobre 2017, après les opérations de vote malmenées, comme vous savez, et qui répétait en boucle qu'il ne s'était rien passé. Non, enfin, il peut dire qu'il s'est passé quelque chose qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne l'est pas opposable, qu'il ne l'intéresse pas, mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Lorsqu'on oppose un tel déni à une réalité qui plus est douloureuse pour les épaules et les cheveux des uns et des autres, concrètement, on peut se dire qu'on a la charge d'un pays tout entier, y compris de ceux qui ne veulent pas y rester. Un gouvernement central ne peut pas simplement se draper de sa centralité, mais c'est au regard de l'ensemble d'une population qu'il a des droits et des devoirs. Et là, Mariano Rajoy a choisi de n'être plus que le Premier ministre d'une partie de l'Espagne. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre.
Merci en tout cas pour vos témoignages et votre analyse de la situation. Donc Jérôme Vialaré, vous êtes, je rappelle, président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron et avocat au barreau d'Albi et intime avec la Catalogne, avec laquelle vous avez beaucoup de relations depuis longtemps. Et donc vous vouliez parler aussi de la manière dont les médias ont traité et continuent à traiter actuellement cette affaire. Et pour vous, il y a quelque chose qui tique, quelque chose qui ne convient pas.
À deux points de vue, d'une part sur le vote lui-même, les opérations de vote dès le mois de septembre, puis au mois d'octobre, je trouve que les médias, pour certains d'entre eux, bien entendu, pas la totalité, mais beaucoup de médias français ont traité toute cette question par-dessus la jambe, comme si le peuple catalan, la nation catalane, qui avait l'outrecuidance effectivement de se considérer comme une nation à part, était constituée de chenapans, de garnements, un petit peu égarés, un petit peu capricieux, des enfants gâtés, qui d'un coup avaient la lubie de l'indépendance. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'indépendance, ça n'a rien d'une lubie, c'est quelque chose qui est chevillé au corps d'une grande partie des Catalans, et quelque chose qui a une histoire, et une histoire qui a toujours fait l'objet d'une répression terrible. Quand vous voyez la réaction du 1er octobre 2017, on peut penser aussi à la réaction qui a eu lieu le 25 novembre 1905, lorsque un journal catalan qui s'appelle El Cucut fait paraître en première page une caricature qui se moque un petit peu, qui brocarde l'armée espagnole. Dès le lendemain, il y a une centaine de militaires armée espagnole qui saccage le journal El Cucut, qui en profite d'ailleurs pour aller saccager le journal Veu de Catalunya, la Veu de Catalunya, la Voix de la Catalogne. On compte je ne sais combien de dizaines de blessés. Donc c'est toujours répondre par une réaction extrêmement, extrêmement violente. Je parlais tout à l'heure de la mise à mort de Luis Companys, qui ne demandait plus rien à personne et qui était réfugié en France aux pires heures du lendemain de la guerre civile. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à ça aujourd'hui. Ce qui fait par rapport à la Belgique, ça ressemble à de la, c'est de la vindicte, c'est de la vengeance du pouvoir central. C'est pas, le pouvoir central n'apporte jamais de réponse sereine à cette situation, mais montre que la situation le dépasse complètement parce qu'effectivement, il ne cesse d'en rajouter.
Est-ce que vous pensez qu'une Catalogne indépendante serait viable? Est-ce que pour vous, tout a été étudié quand même par le gouvernement de Puigdemont au niveau des relations internationales, au niveau économique? Est-ce que vous pensez que ce serait viable?
Alors moi, je répondrais que je ne sais rien et que ce n'est pas mon propos, c'est uniquement ceux des Catalans. Je dirais simplement que, quelles que soient les modalités de séparation d'une portion de territoire, toujours dans l'histoire, on a toujours dit la même chose. Rappelez-vous, dans les années 60, dès 1947, ce que l'on oppose, par exemple, depuis des décennies aux velléités d'indépendance de l'Inde, par exemple, l'Empire britannique dit « ils ne pourront pas se débrouiller sans nous ». Ce que la France dit également dans les années 50 ou 60, ces pauvres pays qui veulent se libérer ne pourront pas se débrouiller sans nous. La scission est première, l'organisation est seconde, et on ne peut pas effectivement obliger et demander à des gens qui sont en train de se libérer de ce qu'ils considèrent comme une emprise, de manière légitime ou pas, peu importe, en tout cas eux, au fond de leur cœur, c'est comme ça qu'ils le ressentent, on ne peut pas demander à des gens qui sont en train de se libérer d'une emprise d'avoir absolument tout prêt. Avons-nous, nous, tout prêt? Nous qui sommes, par exemple, la France, une nation millénaire, est-ce qu'on peut considérer qu'on a tout prêt par rapport à tout et par rapport à notre avenir? Je ne pense pas.
Une pause musicale à présent, El Segadors, le chant des faucheurs, l'hymne officiel de la Catalogne depuis 1993, considéré comme l'hymne catalan dès la fin du 19e siècle. Il est inspiré par une ancienne chanson populaire qui remonte au 12e siècle. Les paroles actuelles ont été écrites en 1899. Elles font référence au soulèvement de la population catalane entre 1640 et 1652 contre l'augmentation des taxes prélevées par Felipe IV d'Espagne pour financer la guerre des 30 ans. Connue sous le nom de Revolta del Segadors, la révolte des faucheurs, cette chanson a servi de chant de ralliement des Catalans républicains pendant la guerre civile d'Espagne, ce qui est un des éléments forcément qui explique qu'elle ait été vigoureusement interdite sous Franco.
Thank you.
El Segadors, le chant des faucheurs, l'hymne officiel de la Catalogne depuis 1993. Et on retourne avec Jérôme Vialaré, président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron et avocat au barreau d'Albi, toujours à propos de la Catalogne.
Donc là, la suite de l'histoire, ça risque de se passer le 21 décembre, c'est ça, puisque l'État a annoncé des élections régionales. Puigdemont a annoncé qu'il respecterait le résultat de ces élections. Il a demandé à Madrid d'en faire de même. Oui. Et donc, alors qu'est-ce qui va se passer concrètement le 21 décembre et sur quoi ça va aller?
Car Puigdemont n'a pas seulement demandé à Madrid, mais à toutes les chancelleries européennes. Voilà, ça c'est d'accord. Aussi important parce qu'effectivement aujourd'hui on a l'impression que la Catalogne est aux abonnés absents puisque les chancelleries ne lui répondent pas. On refuse de lui répondre en disant notre seul interlocuteur c'est le pouvoir central. Alors bon, de deux choses l'une, soit on est neutre et on ne dit rien, soit on prend parti ouvertement en disant voilà c'est un parti pris idéologique. Bon, là actuellement les chancelleries, les ministères des Affaires étrangères, bon partout, ne prennent pas vraiment leurs responsabilités et sont contents de dire que Mariano Rajoy est leur seul interlocuteur. Concernant les élections du 21 décembre, là aussi, c'est montré quand même qu'il n'y a pas de radicalité lorsqu'on dit que lorsqu'on veut faire de Carles Puigdemont et de son organisation politique et du gouvernement en exil des espèces de fondamentalistes complètement irraisonnés, irréalistes de la cause indépendantiste. Je remarque que dans l'intervention qu'a faite Carles Puigdemont et trois de ses ministres il y a quelques jours à Bruxelles, c'est l'inverse qui a été dit. Rappelez-vous que Carles Puigdemont dit « je ne veux pas d'une indépendance au prix d'un affrontement ou de la confrontation ». A fortiori au prix du sang, ça ne l'a pas dit, il a utilisé le terme de confrontation. C'est-à-dire que la confrontation qui lui est opposée, notamment par la Guardia Civil, par la mise en œuvre de l'article 155, lui, il ne veut pas y répondre de cette façon-là, et il accepte de jouer le jeu des élections du 21 décembre. Certains ont considéré d'ailleurs, et même certains journaux français l'ont brocardé, un petit peu vilipendé là-dessus, en disant, c'est n'importe quoi, c'est une girouette, il ne sait pas ce qu'il veut, puisqu'il proclame l'indépendance, et maintenant il reconnaît qu'il dit qu'il va... participer aux élections du 21 décembre. Je dirais simplement à ces personnes-là, bon, elles qui jouent les apprentis sorciers, que Carles Puigdemont montre qu'il a le principe de réalité chevillé au corps, même si, depuis toujours, c'est un indépendantiste convaincu. Il sait très bien qu'il y a des forces en présence avec lesquelles il faut compter, avec lesquelles il faut composé et que son objectif n'est pas de jeter de l'huile sur le feu. Donc il y a aujourd'hui le pouvoir central, donc Madrid, qui jette de l'huile sur le feu complaisamment et depuis Bruxelles bien entendu un certain nombre de personnes dont le président Puigdemont qui ne veulent pas jouer ce jeu-là. Et je pense qu'effectivement pour elles c'est difficile après ce qui s'est passé le 1er octobre, après ce qui s'est passé le 27 octobre, d'accepter le principe d'élection qu'ils ne veulent pas, qu'ils doivent considérer comme pas forcément légitime au regard de la déclaration du 27 octobre, mais ils sont capables de composer. Donc c'est aujourd'hui ce que devraient voir notamment le gouvernement français, les gouvernements voisins, les gouvernements européens. Il y a une partie qui joue l'affrontement et une partie qui, au contraire, peut-être par réalisme politique, sans doute, hein, mais au contraire, essaie d'apaiser les choses au lieu de les envenimer. Donc je pense que c'est tout à l'honneur du gouvernement en exil, enfin du demi-gouvernement en exil. Les autres sont actuellement quand même incarcérés. Hein. Bon, oui. Voilà, c'est. Je signale d'ailleurs que, pas plus tard qu'avant-hier, ça m'a fait chaud au cœur, puisque tous les Catalans ne sont pas indépendantistes, mais tous les Espagnols, moi j'aime beaucoup l'Espagne, mes parents sont professeurs d'espagnol, je parle bien la langue je crois, j'adore la littérature espagnole, depuis les poèmes de García Lorca, Don Quichotte, etc., cette grande littérature, donc je n'ai absolument rien contre l'Espagne que j'aime énormément. C'est, moi, en plus, je ne suis pas catalan, comme je disais tout à l'heure, je ne joue pas l'un contre l'autre. Mmh. Et donc, il y a des Espagnols au plus haut niveau de l'État qui considèrent que ce qui se passe n'est pas normal. Il y a notamment un juge de l'Audiencia Nationale qui est un peu l'équivalent de la Cour de cassation en France, qui est une très haute juridiction, qui a considéré que la compétence du juge Lamela, qui a procédé à l'interpellation et la mise en détention provisoire de certains des membres du gouvernement destitué catalan posait problème et que il était en train de se passer dans son propre pays des choses qui l'inquiétaient. C'est quand même un magistrat, bon pour le moment ce n'est qu'un magistrat, mais je pense que cette prise de position peut commencer à libérer la parole. Je pense que les Espagnols ne sont plus franquistes depuis longtemps. Les Espagnols l'ont montré à travers leur constitution de 1978, qui est beaucoup plus démocratique que la nôtre de 1958, à travers ce qu'on appelait la mobile, à travers effectivement tout ce qu'ils ont pu démontrer depuis les heures sombres du franquisme, qui remontent quand même maintenant à plus de 40 ans, qui sont un peuple dynamique, démocratique, etc. Il faudrait que leurs élites, effectivement, montrent ce que leur peuple a montré depuis 1978. Et ça peut commencer, effectivement. Ça doit commencer au plus haut niveau de l'État, je crois.
Et justement, par rapport à ce qui va se passer le 21 décembre, alors, si j'ai bien compris, vous me reprenez si je me trompe, alors, il va y avoir des élections régionales, oui. Donc pour élire un nouveau Parlement en Catalogne.
Oui.
Et alors, si c'est les indépendantistes qui sont élus en majorité, comment ça va se passer? Est-ce que, du coup, la Catalogne sera, du coup, un peu obligée de continuer le chemin de l'indépendance? Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que l'Espagne n'aura vraiment plus rien à dire par rapport à ça, aura épuisé un peu tous ses recours?
C'est la grande inconnue et c'est la grande question que je me pose par rapport à la stratégie de Mariano Rajoy. D'ailleurs, je me la pose d'ores et déjà parce que on n'arrête pas de nous dire, effectivement, là aussi, dans les médias français ou certains responsables politiques français, que l'Espagne est un état de droit. L'Espagne étant un état de droit, la Catalogne n'aurait pas droit à la sécession. Enfin, c'est pas antinomique. On peut être un état de droit et laisser une partie de son territoire se libérer. Et qui plus est, par rapport à cette qualification d'état de droit, je suis un peu sceptique, là aussi en tant que juriste, parce que on a dans un état de droit des partis politiques, des syndicats, des associations ouvertement indépendantistes, qui annoncent la couleur avant. Et une fois que ces partis indépendantistes, permis par la loi, même reconnus, parfois subventionnés, arrivent au pouvoir et mettent en œuvre leur politique, là, d'un coup, ça ne va plus et on les en empêche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit qui permet l'expression de velléité politique pour en empêcher ensuite la mise en œuvre? Il y a quand même un souci. Donc, aujourd'hui, on nous dit qu'il va y avoir un ensemble de partis, d'associations indépendantistes qui vont prendre, les quatre principales, en fait, hein, et qui vont prendre part aux élections, c'est-à-dire qui jouent le jeu de l'État central, qui vont prendre part aux élections du 21 décembre. Mais, effectivement, je note qu'aucun des membres du gouvernement, surtout pas le Premier ministre Rajoy, n'a répondu à la question qui a été posée devant les médias du monde entier par Carles Puigdemont il y a quelques jours, en disant « nous nous engageons, alors même qu'ils ont gagné, qu'ils ont eu une majorité, que le 1er octobre, sous les matraques policières, ils ont voté pour l'indépendance, qu'ils l'ont proclamé après avoir, pour certains d'entre eux, beaucoup tergiversé. On a beaucoup reproché à Puigdemont de tergiverser pendant tout le mois d'octobre. Bon, après avoir fait tout cela, nous reconnaîtrons de toute façon ce qui sortira des urnes le 21 décembre. Et nous vous demandons de faire de même. Et là, silence radio. Alors quoi, si véritablement l'Espagne, le Royaume d'Espagne veut se considérer comme un état de droit, et si il, en aucun cas il ne veut permettre la mise en œuvre d'un programme indépendantiste, il faut qu'il aille au bout de sa logique et interdire tous les partis qui se réclament de l'indépendance. Et ça, il ne le fait pas. Je rappelle également que ce processus, il ne date pas ni même d'Artur Mas, ni même, bien entendu, du mois d'août ou de septembre 2017. Le processus a commencé en 2006. En 2006, la communauté autonome de Catalogne se voit reconnaître, enfin, discute avec l'État central depuis des années d'une refonte de son statut et de son autonomie. Mmh. Et en 2006, effectivement, il y a des avancées considérables, notamment la reconnaissance de la nation catalane en tant que telle dans son nouveau statut d'autonomie. On met en œuvre ce statut. Donc, les députés espagnols, pas catalans, l'ont voté. Les sénateurs espagnols, pas catalans, l'ont voté. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, à l'époque, le ratifie et le promulgue. Donc, les quatre étapes de l'adoption d'une loi aussi fondamentale que le statut d'autonomie sont franchies avec succès. Et donc, on met en œuvre ce statut. En 2010, le tribunal suprême, saisi par El Partido Popular, qui est le parti actuellement au pouvoir de Mariano Rajoy, va retoquer sur des clauses très importantes, cette nouvelle mouture du statut d'autonomie, et notamment condamner toute référence à la nation catalane. Et c'est à partir de là que les choses vont dégénérer. Parce que pendant 4 ans, ce statut a été mis en œuvre, on a habitué effectivement les dirigeants catalans à aller plus loin dans l'esprit de l'autonomie et voilà la mise en œuvre d'une véritable autonomie par rapport au pouvoir central, tout en restant dans l'ensemble espagnol. Et puis en 2010, on leur dit, non, sans vous le retire, sans vous le retire. Et la notion même de nation catalane, on ne le reconnaît pas. C'est quelque chose qu'on connaît aussi, puisque le Conseil constitutionnel a retoqué le texte sur la Corse, justement, en refusant d'homologuer en quelque sorte la reconnaissance ou la référence à la nation corse. Donc c'est un problème que nous avons aussi en France. Bon, mais là-bas, ça va prendre une tournure effectivement un petit peu acerbe à partir de là, puisque les dirigeants catalans n'auront de cesse d'obtenir du pouvoir central l'ouverture de nouvelles négociations pour que, en dépit de cette censure du tribunal constitutionnel, ils puissent quand même récupérer un certain nombre de prérogatives que pendant 4 ans ils avaient exercées. Et c'est là que le Partido Popular étant arrivé au pouvoir, quelque chose va se bloquer et qui va exacerber les tensions à l'intérieur des camps, du camp indépendantiste. C'est donc depuis 2010 que les choses sont allées. On a eu Jordi Pujol comme président de la Generalitat, puis ensuite Artur Mas, puis ensuite Carles Puigdemont. On peut dire qu'à chaque fois, il y a une gradation dans les velléités autonomistes, voire indépendantistes des principaux dirigeants catalans, et qui date effectivement de cette histoire de 2006, c'est-à-dire d'il y a 11 ans maintenant. Et tout au long de l'année 2017, les choses là aussi sont allées en se cristallisant, puisque la radicalité du pouvoir central ne pouvait bien entendu que faire pièce, une espèce de radicalisation progressive, toujours démocratique et pacifiste et bienveillante de la part du camp indépendantiste. Je dis pacifique et bienveillante parce qu'effectivement, on regarde ce qui s'est passé le 1er octobre 2017, il faut quand même être un peuple adulte et courageux pour ne pas se laisser aller à des débordements dès le lendemain. Ils ne l'ont pas fait, ils ne le font toujours pas.
Merci beaucoup à vous en tout cas.
Merci.
Donc Jérôme Vialaret, je rappelle que vous êtes président de la maison Jean Boudou à Crespin en Aveyron et avocat au barreau d'Albi et donc avec des liens particuliers de cœur avec la Catalogne. Ben, merci beaucoup, vous nous permettez d'y voir un petit peu plus clair dans cette situation qui reste quand même assez complexe. Et donc on attend maintenant le 21 décembre les élections régionales, peut-être pour avoir une idée un peu plus claire sur la suite des choses.
Il y aura quand même des épisodes avant, je crois.
Oui, ça, on n'est pas devin.
Regarde la rapidité avec laquelle les choses se nouent. D'ici le 21 décembre, des choses risquent d'arriver aussi. Ne serait-ce que par rapport à la procédure qui a été lancée en Belgique.
Ouais.
On verra. Merci à vous en tout cas.
Merci beaucoup.
Et on va se quitter en musique avec l'Estaco, le pieu en catalan. Une chanson composée par le chanteur Lluís Siach en 1968. Elle a été composée durant la dictature du général Franco en Espagne. C'est un cri à l'unité d'action pour se libérer de l'oppression et pour atteindre la liberté. D'abord symbole de lutte contre l'oppression franquiste en Catalogne, elle est devenue un symbole de lutte pour la liberté reconnu internationalement. On écoute donc l'Estaco de Lluís Siach.
La vie s'est emparlava de bon matí al portal mentres el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si set fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cap. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tot
les porto per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicisetja no diu res, mal vent que se va portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cap de sisets, l'ho darrer que em va ensenyar.